France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Bah Jordan Bardella, moi je l'aime bien. Hein. Et puis avant la Marine, on la suivait. Quand toutes ces séances abrachées, on était là. Pourquoi ne pas tester une fois ? Qu'est-ce qu'on risque ? Pas pire que ce qu'on a en ce moment ?
La Suède était l'un des pays les plus accueillants d'Europe. Mais tout a changé avec l'arrivée massive de migrants. Le parti d'extrême droite a utilisé ces événements pour dénoncer l'immigration incontrôlée, qui d'après eux, va détruire la Suède.
Il y a eu depuis 20 ans une insatisfaction des Portugais envers le système politique et les partis politiques. Et donc il y avait une demande latente pour changement.
Les forces dites pro-européennes peuvent-elles perdre la majorité au Parlement européen ? Cela semble peu probable, mais les élections du mois de juin devraient être marquées par une forte poussée de l'extrême droite et des nationalistes. Selon un sondage Ipsos pour Euronews réalisé dans 18 pays de l'Union, les partis de droite radicale devraient progresser partout. Identité et démocratie, dont fait partie le Rassemblement national, et conservateurs et réformistes européens, le groupe dans lequel se retrouvent Fratelli d'Italia et le PiS polonais, totaliseraient 157 sièges, soit plus d'un cinquième des voix au Parlement de Strasbourg. Ils sont loin de s'entendre sur tout, mais dénoncent d'une même voix une immigration incontrôlée, une écologie punitive et une Europe qui serait trop bureaucratique et pas assez protectrice. Pour mieux comprendre les ressorts de ce vote, nous vous proposons trois reportages. En France, d'abord, dans une commune de Haute-Marne, département rural qui a progressivement glissé de la droite vers l'extrême droite. En Suède, ensuite, pays qui a opéré un virage après avoir accueilli de nombreux réfugiés. Et enfin au Portugal, où la mémoire de la dictature n'est plus un rempart contre la montée des populismes. Voyage en Europe nationaliste, des reportages signés Antoine Marette, Frédéric Seyss et Julie Pietri. Le politologue Jean-Yves Camus est l'invité de ce grand reportage. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, vous êtes notamment l'auteur avec Nicolas Lebourg du livre « Les droites extrêmes en Europe » paru aux éditions du Seuil. Avec vous, nous allons écouter trois reportages en commençant par la France. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour Aurélie.
Actuellement, le Rassemblement national compte 18 eurodéputés et il espère progresser, notamment dans les territoires ruraux.
Oui, lors des dernières législatives, le RN a progressé dans ses fiefs historiques, le Nord et le Sud-Est, mais aussi dans plusieurs régions rurales, le Sud-Ouest, la Normandie, le Centre et le Grand Est. La liste menée par Jordan Bardella pourrait donc profiter de cette progression dans le monde rural lors des prochaines européennes. Et c'est effectivement ce que disent les sondages qui l'estiment aux alentours de 30% des intentions de vote, ce qui ferait passer le nombre de députés RN de 18 à 28 au Parlement européen. Alors comment expliquer cette progression du vote RN dans la France rurale ? Est-ce une évolution durable ? Je me suis rendu à Langres, en Haute-Marne, pour tenter de trouver des réponses à ces questions. Vendredi matin, jour de marché à Langres. Un marché modeste qui s'étend en bordure du centre de cette sous-préfecture de près de 8000 habitants. Dans le froid de cette matinée de mars, les clients parcourent les stands, échangent les derniers potins.
Tiens, la Jacqueline est aux urgences.
Qu'est-ce qu'il a eu ?
Bah, je ne sais pas, elle m'a appelé tout à l'heure. Ça, tac, 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 là aux urgences.
Comme chaque semaine, Roselyne vient faire son marché à Langres, où elle tenait auparavant le stand buvette. Et quand cette retraitée croise des militants du RN venus tracter pour les européennes, l'accueil est enthousiaste.
On rabat pas mal de monde, on essaie, mais ils ont peur au dernier moment, ils sont cons.
Vous parlez des électeurs ?
Oui.
Alors vous, on sait pour qui vous allez voter.
Ah bah ça, moi, c'est mon idole. Bah Jordan Bardella, moi je l'aime bien. Hein. Et puis avant la Marine, on la suivait, quand toutes ces séances abrachées, on était là.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Marine Le Pen ?
Moi je la trouve bien, elle parle bien et tout ça, c'est déjà ça. Bon, mais là Bardella, c'est lui qu'il faut. Pour le 2027, ça serait bien que ce soit pas elle, que ce soit Bardella qui soit...
Quelles sont les idées qui vous plaisent ?
Ben parce que les étrangers, l'immigration, tout ça, on n'en peut plus. Tout ça, mais il faut stopper tout ça. L'Assemblée nationale qui ne sert à rien.
Il y a beaucoup d'immigrés d'étrangers à Longue ?
Oh ben, y en a quand même pas mal. Bon ben oui. Je ne suis pas contre tous les étrangers, mais il faut arrêter un peu l'envahissement. Là, hein.
Ah oui.
Non, là, c'est plus possible. Hein. Alors, bon... Déjà, les trois quarts des commerçants, bon, je ne dis pas trop ici, mais c'est tous des Marocains, Tunisiens, machin, tout ça, tout vient de l'étranger, hein, si on veut bien.
Et ça, c'est pas bien?
Ils ont tout mieux que nous.
Ah bon?
Oh ben, oui. Regardez, un migrant qui arrive aujourd'hui. Et ils ont quoi? Ils ont 800 euros pour vivre. Toi, tu galères, j'ai 400 euros de retraite pour avoir fait chier toute ma vie. Puis aujourd'hui, un qui arrive en France, allez, ils ont 800 euros, logement, tout. Puis toi, tu galères. C'est ça qui va. Tout ça, mais il faut stopper tout ça. On va déjà... Avec l'Ukraine, tout ça, on va tout droit à la guerre civile. Hein. Ça va.
Marine Le Pen disait qu'elle admirait Vladimir Poutine, par exemple.
Oui, non, mais bon, alors ça, les conneries. Hein. Bon, elle fait ce qu'elle veut, hein, de toute façon.
Marine Le Pen disait... Il n'envahira jamais l'Ukraine.
Tiens, oui, mais ça, bon, elle s'est un peu trompée. Hein, moi, bon, elle n'est pas devin non plus. Elle fait des erreurs comme tout le monde. Hein, voilà.
Donc elle n'est pas meilleure que les autres.
Mais pourquoi ne pas tester une fois?
Il voulait la tester un peu.
On n'a jamais mis. Qu'est-ce qu'on risque? Pas pire que ce qu'on a en ce moment.
Allez, bonne de l'or. Merci.
L'attrait de la nouveauté, c'est peut-être l'une des explications du succès du RN en Haute-Marne. Cet ancien fief gaulliste a basculé à l'extrême droite lors des dernières législatives. Les deux députés du département sont désormais Rassemblement National. Parmi eux, Christophe Benz, parachuté depuis les Yvelines. Il a axé sa campagne sur le recul des services publics dans ce territoire, en grande partie rural.
C'est un abandon de l'État sur les services publics en général. Moi, j'en prends souvent trois parce que pour moi, ils sont majeurs. Je considère que les trois reculs les plus criants, en tout cas sur un territoire rural qui est le mien, c'est la santé, c'est les transports et c'est l'école, le scolaire. Et ça, c'est vrai que concrètement, hein, je peux vous prendre des exemples concrets du quotidien.
Allez-y.
Prenons le scolaire. La carte scolaire implique chaque année, dans les territoires qui ont effectivement une population qui baisse tendanciellement, mais il y a des fermetures de classes qui concrètement dans les villages préoccupent les parents parce que ça a des incidences, des conséquences sur leur quotidien. Parce que
vous avez un exemple très concret
J'en ai eu deux là, à Semoutier, dans le centre de la Haute-Marne, ou à Protois, dans le sud-sud-sud du département, où on a eu des fermetures. On a saisi le recteur, on a essayé de comprendre, alors qu'il n'y avait pas forcément de baisse significative du nombre d'élèves, et pourtant, il y a des fermetures. Donc, ça, typiquement, sur le scolaire, c'est du concret pour ceux qui habitent ces territoires-là. Sur les transports, j'en ai un exemple encore plus tristement symbolique. Le TGV passe en Haute-Marne. Il y a une ligne TGV en Haute-Marne, il y a une gare TGV en Haute-Marne. Mais le TGV ne s'y arrête pas. Pour être plus précis, il ne s'y arrête plus. Donc vous voyez, c'est des choses concrètes. Parce que quand on a sur des territoires ruraux un problème d'attractivité générale. Moi, je pense que l'attractivité, elle se résout en grande partie par le retour nécessaire, voire indispensable, des services publics, notamment et en particulier dans les trois secteurs santé, transport, école. Et sur la santé, alors là, c'est un sujet majeur, sur une question qui est une question en fait de réorganisation de l'offre hospitalière, de l'offre de soins sur le territoire, qui est tellement majeure que régulièrement des manifestations ont lieu pour contester la décision, en l'occurrence une décision de l'État via l'ARS sur une réorganisation territoriale de l'offre hospitalière. On a une inquiétude profonde parce que la problématique, en réalité, c'est l'accès aux soins, aux services de soins, aux services de santé. Et lorsque ces services reculent, la première conséquence, c'est ce qu'on appelle le renoncement aux soins. Vous avez beaucoup de gens, et j'en ai croisé énormément en porte-à-porte, qui, pour des raisons financières, parce que plus les services publics de santé s'éloignent, plus ça a un coût de se déplacer pour aller chercher le service beaucoup plus loin. Donc des gens qui, pour des raisons physiques ou de handicap, au-delà de la question financière, renoncent à se soigner. C'est ça le drame de l'abandon des services publics, notamment de santé en particulier, dont je vous parlais à l'instant.
Bonjour monsieur. Pendant presque 30 ans, le gaulliste François Cornu-Gentil a régné en maître sur la deuxième circonscription de la Haute-Marne. Jusqu'aux législatives de juin 2022, le député sortant a été battu par la candidate du RN. Un vote protestataire, selon François Cornu-Gentil.
Moi, j'ai vraiment des doutes sur ces explications par un thème unique, immigration ou pouvoir d'achat. Je crois que le vote est vraiment l'expression d'un état d'esprit, d'une peur, d'une volonté de manifester qu'on a été oublié. Je crois que c'est ça qui pèse. Au fond, on le voit d'ailleurs, Marine Le Pen peut dire n'importe quoi. Les gens avaient envie de manifester leur mécontentement. À partir de là, vous regardez pas le programme, c'est plus le sujet, le programme. Dans la dernière campagne, il y a eu vraiment, dans le public qui votait RN, une obsession anti-Macron. Voilà, se payer Macron.
Vous n'êtes pas macroniste.
Ah non, je suis pas macroniste, mais j'étais pas soupçonné. J'expliquais très clairement que j'étais dans l'opposition, mais les gens se disaient oui, mais bon, si la priorité c'est de se payer Macron, c'est pas vous le bon candidat. Voilà, donc je crois pas tellement au thème. Je crois vraiment que le vote dans une période ou dans des départements qui se sentent un peu en désarroi, c'était une façon de crier au secours ou de crier son ras-le-bol, tout simplement. Je pense que l'électorat RN n'est pas du tout dans l'application d'un programme, ce qui posera peut-être des problèmes à Marine Le Pen le jour où elle sera éventuellement au pouvoir.
Historiquement, la Haute-Marne, c'est un fief de la droite, avec quelques petites poches de gauche, mais historiquement, c'est plutôt à droite, c'est plutôt agricole, gaulliste. D'ailleurs, dans ce département, il y a Colombey-les-Deux-Églises. C'est un lieu mythique. Qu'est-ce qui explique ce passage de la droite à l'extrême droite, qui est assez nouveau?
Alors, dans le département, ça a été une longue progression plutôt qu'un basculement. Donc, je crois qu'il y a eu le phénomène d'exprimer un malaise. Et puis, il y a eu sans doute, la droite plus que la gauche a encore plus besoin de leaders, d'une certaine façon. Je pense que tout ce qu'il y a eu de guerre des chefs, rappelez-vous, Fillon-Copé, un certain nombre d'aventures de ce genre-là, a donné le sentiment à un public de droite plutôt traditionnel, plutôt modéré, que ces partis étaient rentrés dans lesquels une forte déception, voilà. Je pense qu'il y a eu un moment aussi encore un peu d'enthousiasme avec l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, et que sur ces déceptions, sur l'absence de relève évidente, les gens se sont laissés à dire que il n'y avait plus grand monde et qu'il n'y avait plus qu'à manifester son mécontentement.
Oui, bonjour monsieur, Antoine Marais de France Culture, j'ai rendez-vous avec Benoît Coquart.
Benoît Coquart est sociologue à l'INRAE de Dijon. Il est spécialiste des mondes ruraux. Selon lui, les racines du vote RN en Haute-Marne sont bien plus profondes qu'une simple déception conjoncturelle.
On est sur des départements qui étaient plus peuplés à la fin du 19e siècle qu'aujourd'hui, où il y a eu une forme de prospérité, vraiment, due à la production locale et à l'idée que de génération en génération, on allait pouvoir reproduire la condition de ses parents et l'améliorer systématiquement. Et le 7 est mieux avant est très marqué chez des jeunes qui n'ont même pas connu l'époque dont ils sont nostalgiques. C'est-à-dire que moi, j'avais des personnes de 25-30 ans qui me disaient « j'aurais aimé vivre à l'époque des pâtes d'Eff ». Pourquoi ? Parce qu'il y avait du boulot, parce que tu pouvais dire merde à un patron et en retrouver un le lendemain, parce que tu ne fermais pas ta voiture à clé, parce que tout le monde se connaissait, mais en même temps, il y avait toujours de nouvelles têtes. Au bal, il y avait 600 personnes, aujourd'hui, il y en a 80. Et il y a un bal tous les 6 mois, alors qu'avant, il y en avait un tous les 15 jours, etc. etc. Bref, c'était mieux avant. Et quand on compare, parce que les ruraux, ils ont ça de particulier, qu'il y a beaucoup de sociabilité qui sont intergénérationnelles. Donc on a une conscience assez bonne, je trouve, de la condition de vie des anciennes générations. Par exemple, j'ai vu des gens, c'était des hommes, là, pour le coup, parce que je trouve que c'est ce sentiment décliniste et nostalgique est assez marqué du côté des hommes, alors que les femmes, elles peuvent se rappeler aussi que c'était pas si facile pour les femmes dans les années 70 et voilà, il y a d'autres types de conversations en fait qui circulent, mais en tout cas il y avait des conversations comme ça où on se disait à l'époque nous il nous fallait 2 ans de salaire à l'usine pour se payer une 2 chevaux, et vous il vous faut combien de temps de salaire aujourd'hui à l'usine ou dans votre PME du bâtiment pour vous payer la nouvelle Citroën qui est électrique certainement maintenant, c'est impossible à envisager en fait pour un ouvrier, donc forcément qu'il y a un sentiment du c'était mieux avant. Et il y a toujours du coup une idée qu'il y aurait une déception par rapport à tout ce qu'on a essayé, quoi. Et qui sert de justification là pour le coup au vote FN, dont on sait que c'est aussi un vote nostalgique. C'est un vote qui cherche à comme ça apaiser un besoin de nostalgie permanent, de retrouver une vraie France. Et ça, c'est ce qu'on observe, dans tous les pays occidentaux pour les candidats qu'on considère comme populistes. En fait, on joue sur une nostalgie du 7 mieux avant, du Great Again, etc. C'est pas propre au FN français.
Dans Antoine Marette, le sociologue Benoît Coquart, que l'on vient d'entendre, parle de nostalgie, d'un sentiment partagé, selon lui, dans les autres pays européens. Alors, nous allons voir ce qu'il en est en Suède. Je vous propose d'écouter notre deuxième reportage dans un pays qui avait une tradition d'accueil. Au plus fort de la crise migratoire liée à la guerre en Syrie en 2015, la Suède a accueilli plus de 160 000 migrants, ce qui a représenté un effort substantiel pour ce pays de 10 millions d'habitants. Mais les associations qui œuvrent à l'intégration déplorent aujourd'hui un tournant. La progression de l'extrême droite pousse le gouvernement conservateur à restreindre les droits des migrants, en particulier celui d'accéder au modèle social. Et cette évolution est largement soutenue par la population, effrayée par la ghettoisation et les affrontements de plus en plus violents entre les gangs. Le parti d'extrême droite, les démocrates de Suède, perce dans de nombreuses communes, y compris dans les zones rurales. Frédéric Seiss nous emmène d'ailleurs dans une petite ville tranquille au bord de la Baltique, à une heure de Stockholm.
C'est une ancienne ville de pêcheurs, devenue une station balnéaire l'été. Centre commercial en périphérie, bâtiment de briques beige et ocre, Nortelia, 20 000 habitants en hiver, a gardé ses maisons traditionnelles dans le centre-ville, façade en bois, peinte de rouge, de bleu ciel ou de jaune.
Hello Frédéric, I'm there in one minute.
Okay. C'est là que nous a donné rendez-vous Andrea Kroonvall, 38 ans. Elle est la responsable locale du parti anti-immigration, les démocrates de Suède, l'équivalent du Rassemblement national, en plein essor.
Lors des dernières élections municipales, pour la première fois, les électeurs nous ont portés à la mairie.
Lutte contre l'immigration, la violence et l'islamisation, voilà le programme du parti d'Andrea Kroonvall. Alors comment comprendre sa percée électorale dans cette bourgade tranquille, coincée entre les petites îles de la Baltique et de vastes forêts?
Vous savez, en Suède, désormais, tous les jours, il y a des fusillades, des affrontements entre gangs, des explosions. C'était impensable il y a encore quelques années. Bon, certes, ici, c'est pas vrai.
Oui, ici, ça n'a pas l'air très violent.
Non, ici, c'est l'une des communes les plus tranquilles de la région. Mais justement, nous sommes à seulement quelques arrêts de bus d'autres villes qui sont rongées par la délinquance. On ne veut pas de ça chez nous. C'est pour ça que notre parti progresse, pour protéger notre sécurité ici.
À la télévision, la guerre des gangs, les fusillades, les explosions font la une du journal. Chaque année en Suède, une soixantaine d'homicides par arme à feu, record d'Europe rapporté au nombre d'habitants. Dans la grande rue piétonne, Andrea Kroonvall croise un couple de retraités qui promènent leur chien. Anders et Eliane, 70 ans, votent pour la droite conservatrice, mais ils ne sont pas insensibles aux arguments de l'extrême droite.
Sur l'immigration, votre parti dit des choses qui nous semblent intéressantes et justes, même si parfois vous allez trop loin. Par exemple, pourquoi défendre ceux qui brûlent le Coran en public alors que vous savez que cela va blesser des gens?
Les autodafés de Coran en place publique ont divisé la société suédoise entre respect des croyances et liberté d'expression. Andrea Kroonvall, elle, redoute l'islamisation de son pays. Elle a en tête un modèle à ne surtout pas suivre, la France.
Si on ne prend pas des mesures drastiques, alors oui, nous risquons de devenir comme la France. Vous êtes en quelque sorte en avance sur nous et pas dans le bon sens. Heureusement, nous n'avons pas subi le même genre d'attaque que vous contre Samuel Paty ou contre le Bataclan. Mais on ne veut pas de ça ici. Alors nous devons apprendre de votre expérience et agir plus tôt que vous ne l'avez fait en France.
Et Andrea Kroonvall revendique avec son parti une victoire culturelle au sein de la société suédoise.
Nous avons eu le courage de mettre en avant des sujets qui étaient très mal vus. Les politiques migratoires, la sécurité, l'intégration, tous ces sujets sont devenus beaucoup moins polémiques.
Beaucoup moins polémique, au point que le gouvernement suédois multiplie les lois pour restreindre les droits des migrants. Alors comment les exilés vivent-ils ce changement? Pour le savoir, je me suis rendu dans un centre de l'ONG Caritas, dans un quartier populaire de Stockholm.
Tio.
Un cours de suédois avec une demi-douzaine d'élèves, pour la plupart originaires d'Amérique du Sud. Parmi eux, Ruth Munoz, une équatorienne de 45 ans. Elle vit depuis un an et demi en Suède.
Oui, c'est dur, c'est de plus en plus compliqué. Avant, pour avoir un permis de travail ici, il fallait prouver que tu gagnais au minimum 14 000 couronnes, c'est-à-dire 1 200 euros. Aujourd'hui, il faut gagner au moins 27 000 couronnes, 2 400 euros, presque le double. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne veulent pas de nous ici.
Et pour obtenir la nationalité suédoise, c'est encore plus difficile.
Oui, c'est compliqué. Il faut avoir un salaire de plus de 3 000 euros par mois, un permis de résidence, être ici depuis au moins 5 ans. Et bientôt, ils veulent mettre dans la loi qu'il faut parler parfaitement suédois. C'est difficile.
Compliqué, une forme de désillusion, comme un mirage qui s'estompe. Pierre Ruffaut, le professeur de suédois, bénévole belge, doit tempérer l'espoir des migrants fraîchement arrivés à Stockholm.
Beaucoup de jeunes aujourd'hui, maintenant, beaucoup plus qu'avant, qui viennent ici pour trouver le paradis. Ils croient trouver le paradis, alors qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que c'est absolument impossible. La politique est devenue très serrée, sévère. Bien souvent, ils disent « Oui, tu dis ça, mais il faut aussi croire dans la Providence. Dieu est là, il va nous aider. » Oui, oui, il va vous aider, mais d'une autre manière, peut-être. Voilà.
Donc, c'est-à-dire le message que vous leur faites passer.
Qu'il n'y a pas de futur ici.
La salle de cours se transforme en chorale. Dans son bureau, le secrétaire général de Caritas, Georges Joseph, peine à rester optimiste.
La Suède était l'un des pays les plus accueillants d'Europe. Mais tout a changé avec l'arrivée massive de migrants en 2015. Plus de 160 000 en trois mois. Le système d'accueil n'était pas préparé à ça. Il s'est effondré. À partir de là, la rhétorique politique a changé. Le parti d'extrême droite, qui s'appelle les démocrates de Suède, a utilisé ces événements pour dénoncer l'immigration incontrôlée, qui, d'après eux, va détruire la Suède.
Et c'est désormais le parti le plus influent. Pourtant, les démocrates de Suède n'ont pas de ministre, mais leur poids au Parlement, 20% des voix aux dernières élections, les rend incontournables. Le Parlement, c'est justement là que nous avons rendez-vous avec l'un des théoriciens de ce mouvement qui effraye la gauche.
Sure, my name is Ludwig Aspling.
Je m'appelle Ludwig Aspling, je suis député en charge des questions migratoires au sein de notre parti, les démocrates de Suède.
Chemise blanche, pantalon beige, basket grise, Ludwig Aspling veut incarner la vitrine moderne du mouvement, bien loin des fondateurs pour certains néo-nazis qui ont été écartés. Surprise, en entrant dans son bureau, trône un masque de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Le député s'empresse de le ranger, un peu gêné.
It's for Halloween party.
Oui, c'est pour Halloween.
Étrange. Je m'apprête malgré tout à débuter l'interview quand l'attaché de presse commence à nous enregistrer sans même prévenir. Je lui demande pourquoi.
Why is that?
Non, parce que, vous savez, si l'interview se passe mal, ou si vous écrivez des choses que nous n'avons pas dites, alors nous aurons une preuve. Ce sont nos règles.
Ok, l'ambiance est un peu spéciale, mais le député, lui, reste enthousiaste.
There's a lot of stuff going on.
Beaucoup de choses, dit-il, sont en train d'avancer.
We're also working with social benefits.
Par exemple, notre modèle social. C'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent ici. Nous allons faire en sorte que l'État-providence ne soit plus automatique pour tout le monde.
First, you have to sort of get a job.
Désormais, vous devrez avoir un travail, contribuer, cotiser, et ensuite seulement, vous pourrez bénéficier du système social. Jusqu'à présent, trop de gens avaient droit à tout dès leur arrivée ici, ce qui encourageait l'assistanat.
Je lui demande alors s'il considère son parti comme d'extrême droite.
Non,
bien sûr que non, mais je me fiche de ce que les gens disent.
Mais alors, pourquoi son parti va-t-il s'allier à celui de Giorgia Meloni, la très droitière première ministre italienne lors des élections européennes? Ludwig Aspling botte en touche.
C'est
une bonne question, mais je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre. La réflexion est en cours. Je ne peux pas vous en dire plus.
Le député préfère nous montrer la vue depuis son bureau qui donne sur le siège du gouvernement.
Pour l'instant, on regarde ce bâtiment de loin, mais on espère qu'un jour on sera à l'intérieur.
C'était un reportage de Frédéric Seys qui a aussi pu s'entretenir avec la ministre suédoise des Migrations, Maria Malmer Stenergard, issue de la droite conservatrice. Pour elle, avoir signé un programme commun avec le parti nationaliste des démocrates de Suède n'est pas du tout un problème. Écoutez-la.
Nous travaillons très bien ensemble, que ce soit au sein de la coalition gouvernementale, mais aussi avec ce parti qui nous soutient, les démocrates de Suède. C'est une grande force. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut une politique migratoire beaucoup plus stricte. Mais je dirais qu'il y a quand même des différences entre mon parti, les modérés, et les démocrates de Suède, en particulier sur la coopération internationale. Pour moi, il est indispensable que la Suède ne se replie pas, qu'elle maintienne les échanges avec d'autres pays et d'autres cultures. Mais je suis tout aussi convaincue que si nous n'avons plus le contrôle, si nous ne décidons plus qui est autorisé à entrer en Suède, à rester en Suède, si l'on ne se sent pas en sécurité, alors cela menace cet esprit d'ouverture.
Jean-Yves Camus, vous avez entendu les arguments de la ministre suédoise d'immigration. Ces partis se rejoignent-ils réellement sur certaines valeurs ou est-ce une alliance de circonstances ?
C'est comme au Danemark depuis quelques décennies maintenant, une alliance qui est avant tout dictée par l'arithmétique parlementaire. C'est-à-dire que le parti conservateur au pouvoir voit qu'il n'est pas majoritaire, sans les voix du parti radical de droite, et avec beaucoup de pragmatisme, il se dit qu'il est à la fois dangereux de les inclure dans une coalition gouvernementale, en termes d'image, et puis aussi parce qu'effectivement les programmes ne sont pas identiques, mais qu'en même temps, nécessité fait loi, et qu'il faut donc partir sur la base d'un programme commun en comptant sur la fiabilité de l'élu en question, des élus du parti en question. Pour les démocrates suédois, comme pour le parti du peuple danois, l'avantage est double. Il reste dans la situation de l'outsider, c'est-à-dire que si une décision gouvernementale est mauvaise, il a la possibilité d'abord de ne pas la voter au Parlement, et ensuite de rejeter l'erreur sur le dos de son partenaire, en disant « nous, on n'aurait pas nécessairement fait comme ça ». Et puis, en même temps, et ça c'est fondamental, cette position d'outsider lui permet de continuer ce travail qui a été évoqué dans le reportage, de rendre, pardonnez-moi l'anglicisme, « mainstream », des idées qui étaient auparavant moins répandues. Autrement dit, au fur et à mesure que l'agenda politique, notamment sur les questions d'immigration et de sécurité, devient de plus en plus conservateur sous la pression de ses députés de droite radicale, eh bien, les citoyens se disent que finalement, ça n'est pas la dictature, ce qui est d'ailleurs parfaitement exact. Donc ce parti est respectable et que finalement les sujets qu'il évoque non seulement méritent d'être pris en considération mais encore que les réponses qu'il y apporte sont du domaine du crédible. Donc au point de vue de ce que certains appellent la métapolitique, c'est véritablement le deal gagnant-gagnant. Vous êtes à la fois en dehors du gouvernement, donc vous n'êtes pas tenu comptable de ces éventuels échecs, et vous faites progresser lentement mais sûrement votre logiciel idéologique dans l'espoir qu'un jour, le rapport de force entre les deux parties tourne à votre avantage et que ce soit vous, le partenaire majoritaire, et les conservateurs, le partenaire minoritaire.
Et ça donne, de fait, aux démocrates de Suède une influence considérable.
Ça leur donne effectivement une influence qui a été aussi rendue possible par, j'allais dire, leur très ancienne vista politique. Je veux dire par là que quand on se rapporte à ce qu'étaient les démocrates suédois à la fin des années 80, au début des années 90, jusqu'au milieu de la décennie 90, c'est un petit mouvement extrêmement dur en termes idéologiques, peuplé effectivement de néo-nazis, il y en avait, et de gens appartenant aux marges de la culture politique. Et puis petit à petit, notamment parce que l'ultra-droite suédoise des années 90 avait commis un certain nombre d'actions violentes dont il convenait de se démarquer, les dirigeants des démocrates suédois ont entamé une purge qui a été assez tôt achevée et ont changé le logiciel, même si le député qu'on a entendu ne me semble pas particulièrement représentatif d'une, comment dire, d'une tendance du parti qui a particulièrement modernisé son discours. Il a l'air d'être quand même, je ne vais pas dire d'avoir quelque chose à cacher, j'aime pas cette formule, mais d'avoir quand même une certaine réticence à dire tout haut ce que peut-être il pense tout bas. Mais ce parti a effectivement épuré son leadership et même sa base militante assez vite, de sorte que ça fait 20 ans en fait que son travail de dédiabolisation, comme on dit en France, du Rassemblement National, a été entamé.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Avant de poursuivre l'analyse avec vous, Jean-Yves Camus, nous poursuivons notre panorama avec un troisième reportage au Portugal cette fois. Ce pays europhile semblait jusqu'à présent résister à la progression de l'extrême droite. Il était souvent présenté comme une exception, mais c'était sans compter la percée d'un tout jeune parti, Chega, ça veut dire « assez », ça suffit en portugais. Pour se faire sa place dans le paysage politique, Chega s'est appuyé sur les scandales de corruption qui ont touché les socialistes au pouvoir depuis 8 ans et fait tomber le gouvernement d'Antonio Costa. Chega a obtenu 18% des voix aux élections législatives du 10 mars. Il est devenu la troisième force politique du pays avec une cinquantaine de députés et il compte bien peser dans le nouveau gouvernement minoritaire piloté par le centre droit. Cette ascension est d'autant plus marquante qu'elle survient alors que le pays fêtera dans un mois les 50 ans de la chute de la dictature salazariste, celle de l'empire colonial portugais aussi avec la révolution des œillets. Écoutez le reportage de Julie Pietri à Porto.
Nous sommes plus d'un million au Portugal. André Ventura, c'est lui, le fondateur et l'incarnation aussi de Chega. Professeur de droit, ancien commentateur de foot, adepte des saillies sur les plateaux télé. Celui qui s'affiche volontiers aux côtés de Marine Le Pen, qui se dit admirateur de Trump ou de Bolsonaro, savoure ce soir-là les 18% de son tout jeune parti aux élections législatives. Au QG de campagne de Porto, joie des militants, Rui Afonso est la tête de liste locale.
On a eu une croissance énorme. Le parti a 5 ans. On a commencé avec un nombre de voix très modeste en 2019. En 2022, on a déjà atteint les 7,5%. C'est le parti qui, au niveau national, monte le plus. L'Europe est en train de changer.
Chega est un parti anti-système, anti-élite, anti-immigration, anti-Rom, anti-média aussi, mais refuse d'être classé à l'extrême droite.
On est un parti de droite forte. Nous sommes le parti le plus à droite du spectre parlementaire. Mais on n'est pas un parti d'extrême droite. Cette définition est souvent utilisée, mais surtout pour nous ostraciser.
Chega est un parti en définition idéologique encore.
Carlos Jalali, professeur de sciences politiques à l'université d'Aveiro, le définit comme populiste, radical et surtout opportuniste.
Son programme de 2019 parlait de la nécessité de privatiser l'éducation et la santé, une proposition qui est pas du tout populaire au Portugal. Et quand quelqu'un a vu ça et dit « Mais attendez, ils défendent ça », Ventura a dit « Non, c'était une erreur et ils ont changé son position ». Donc c'est un parti qui adapte son programme et qui évolue voulant attirer la plupart des électeurs qu'il peut. Il y a eu depuis 20 ans une insatisfaction des Portugais envers le système politique et les partis politiques. Les études montraient que la confiance des citoyens sur les partis était très, très baisse. Et donc il y avait une demande latente pour changement qu'aucun autre parti avait su mobiliser, capitaliser. Pour le moment, Chega, c'est surtout un parti anti-système. Il faut nettoyer, changer le système politique. Les politiciens sont tous corrompus. Nous sommes les hommes propres qui vont gouverner en pensant dans le peuple. Et donc, c'est un parti qui a pu mobiliser cet électorat avec une stratégie de communication politique très efficace.
Sur les réseaux sociaux, comme à la tribune, Chega manie l'outrance et la provocation. En 2021, le leader du parti a même invoqué le Portugal salazariste. Dieu, patrie, famille, crie André Ventura, reprenant à son compte la vieille devise de la dictature à laquelle il ajoute seulement le mot travail. Plus récemment, le soir des législatives, il prononce un discours ambigu sur l'héritage du pays.
Je sais que beaucoup comprendront ce que je veux dire. Aujourd'hui, ça a été le règlement de compte avec l'histoire d'un pays silencieux, des nombreuses personnes qui se sont tues pendant les dernières décennies. De tous ceux qui ont vu la révolution d'avril se transformer en la désillusion d'avril. Ce pays dont les institutions ont été séquestrées commencera maintenant à être libéré.
Pour ceux qui ont vécu la dictature et qui l'ont combattue, ce discours a pu être perçu comme une attaque en règle contre la jeune démocratie portugaise obtenue il y a 50 ans avec la révolution des œillets.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas.
Je suis le colonel José Adelino Carneiro. J'étais capitaine en Angola et j'ai fait la révolution du 25 avril.
Et derrière vous, il y a un vase avec des œillets rouges. Vous gardez ça tout le temps avec vous?
Lors de l'anniversaire du 25 avril, je vais parler dans les écoles. Je pense que dans une école, ils m'ont offert cet œillet et je l'ai gardé. Quand je vais dans les écoles, je me sens un peu comme un animal qu'on voit au zoo. Ils n'ont pas conscience de ce qu'était la dictature, le fascisme.
Et vous alors, ce jour-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je pense que je peux vous montrer.
C'est une archive de journal?
J'ai commencé à préparer le 25 avril quand j'étais en Angola. On a eu 13 ans de guerre coloniale là-bas. J'ai planifié des centaines d'opérations en Angola, donc on savait faire. Le gouvernement était déjà en train de chuter, il était pourri. On a seulement eu besoin de secouer l'arbre et il est tombé.
Dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, une chanson résonne dans les postes de radio.
Grandola Villa Morena, terra da...
Grandola Villa Morena, un hymne à la fraternité. C'est le signal attendu. Les militaires, mal payés, usés par les guerres coloniales, renversent le pouvoir.
Mon père, très catholique, avec ma mère, c'était des personnes qui adoraient Salazar. Juste avant, le 25 avril, j'ai envoyé ma femme chez mon père, qui habitait aussi à Porto. Quand elle lui a dit que j'étais en train de préparer la révolution, mon père l'a engueulé. Il a même dit à ma femme que s'il avait su, il ne m'aurait pas soutenu pour aller à l'académie militaire. Si le 25 avril a mis fin au fascisme, il n'a pas supprimé les fascistes.
Manuela Matos Monteiro, 74 ans, était à l'époque une jeune enseignante engagée dans la résistance.
J'ai eu une activité clandestine, risquée, très risquée. On avait des réunions, on produisait des communiqués clandestins qu'on distribuait. C'est une situation où l'on vit toujours dans la peur. Et avec le sentiment d'être toujours surveillé et en danger parce que quelqu'un peut voir ou peut entendre. Et ce qu'il peut voir ou entendre, ce peut être une chose très simple, comme lire un livre de poésie interdit ou écouter une chanson qui parle de liberté. Il y a une peur intériorisée. La mémoire, c'est très important, mais c'est aussi très difficile à transmettre. Parce que c'est seulement quand tu es privé de liberté que tu sais ce qu'est la liberté. Je vois l'ascension de l'extrême droite avec une grande surprise. Parce que la mémoire de ce qu'a été l'extrême droite est très proche.
La concomitance entre les 50 ans de la Révolution et la montée de l'extrême droite.
C'est horrible.
C'est horrible.
Je suis optimiste.
Je n'ai pas une vision catastrophiste, mais il y a une préoccupation. Que cette situation soit dangereuse, qu'elle nous fasse peur, oui, mais ça ne peut pas nous laisser paralyser. On peut penser que tout ça, c'est une fatalité. Et ça, c'est très dangereux. Ce n'est pas suffisant d'aller voter. On a besoin de faire plus, d'avoir des existences actives, productives, de mener des actions qui améliorent le bien-être des personnes et leur place dans la société. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rester avec ce sentiment de défaite ou de peur de ce qui peut arriver? Je ne laisserai pas faire ça.
Nous sommes un parti profondément démocratique. Nous comparer à la dictature, ça ne sert à rien, réagit Rui Afonso, le leader de Chega à Porto. Une étude au Portugal a pourtant démontré récemment que les électeurs de Chega étaient les plus nostalgiques de cette époque.
Ce qui s'est passé avec Salazar, ça a été une époque très particulière. Le peuple portugais a 900 ans d'histoire.
Nós tivemos império nas nossas mãos. Nós conquistamos países.
Nous avions un empire dans la main. On a conquis des pays. Et maintenant, non, c'est nous qui sommes quasi occupés par tous ces gens qui viennent travailler ici.
Vous n'êtes pas nostalgique de l'époque coloniale, si?
Je n'ai aucune nostalgie de l'époque coloniale. Je n'en ai pas. Mais je dois dire que si vous regardez l'Angola et le Mozambique, qui ont été des colonies portugaises, la décolonisation n'a pas apporté la liberté. Ça leur a apporté une anarchie totale. Donc, je ne sais pas. Si aujourd'hui vous demandez à un Angolais s'il préférerait vivre à l'époque de la colonie portugaise ou s'il préférerait vivre maintenant, je ne sais pas quelle serait la réponse. Parce que les histoires que nos grands-parents nous racontent, c'est qu'on vivait très bien dans les anciennes colonies et qu'on produisait beaucoup de richesses et les gens vivaient dans une liberté extrême.
Une réécriture décomplexée de l'histoire qui n'étonne pas Carlos Jalali, le professeur de sciences politiques.
La relation du Portugal avec son passé est une relation compliquée. Il y a une vision très romantique, très positive de ce passé colonial. Bon, il y a eu l'esclavage. Le Portugal, c'était un des principaux, sinon même le principal pays du trafic d'esclaves historiquement. Mais le Portugal avait fait ça avec une mission civilisationnelle, etc. Et ce discours, c'est un discours qui n'a pas vraiment été changé pendant la période démocratique. Et pour une partie de la population, l'expérience coloniale, c'était surtout positif pour tout, pour les pays qui ont été colonisés.
C'est ce que fait Chega, dit-il, mettre en lumière des idées qui existent dans la société mais qui n'avaient pas, jusqu'à maintenant, été utilisées politiquement. Lors des européennes, Chega espère pour la première fois envoyer des députés au Parlement européen et renforcer ainsi le bloc identité et démocratie aux côtés de l'AFD allemande ou du RN français.
La fin d'une exception portugaise, un reportage de Julie Pietri avec Johanna Gabric à la technique et Annie Brault à la réalisation. Le politologue Jean-Yves Camus, auteur de nombreux travaux sur l'extrême droite européenne, est toujours avec nous. Alors, ce parti portugais, Chega, n'est pas un parti anti-européen. Est-ce que c'est simplement par stratégie opportuniste dans l'un des pays les plus europhiles du continent ?
Écoutez, il faut s'entendre sur ce que l'on entend par « ce n'est pas un parti anti-européen ». J'ai relu son programme hier. Il se déclare en faveur d'une Europe des nations souveraines. Ça correspond exactement à ce qui est en train de se passer dans le secteur le plus concurrentiel des droites radicales, c'est-à-dire ceux qui ont compris que la sortie pure et simple de l'Union européenne était anxiogène pour les électeurs et qui estiment qu'il est en leur pouvoir, s'ils progressent encore électoralement, de peser suffisamment sur le Parlement et la Commission pour défaire de l'intérieur ce qui a déjà été accompli dans l'UE. Autrement dit, en revenir à ce que j'ai connu dans mon adolescence, c'est qu'on appelait le marché commun. c'est-à-dire une association d'États qui possèdent chacun leur souveraineté et dans lesquels le droit national reste supérieur au droit communautaire, et qui peuvent, au coup par coup, sur des sujets précis, décider de s'associer pour mener à bien tel ou tel projet.
En France, le discours de Marine Le Pen a évolué dans le même sens, c'est-à-dire qu'elle ne parle plus de Frexit, mais de réforme des institutions européennes de l'intérieur.
Exactement, et c'est dit de manière relativement ouverte. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Donc, je sais que Chega se défend d'être un parti anti-européen, mais précisons les choses. S'il s'agit de dire non à une Europe qui veut imposer un modèle fédéral, à une Europe dont le droit s'impose effectivement aux États membres, à une Europe qui peut mettre en route des procédures de surveillance contre certains États qui ne respectent pas l'état de droit ou les libertés fondamentales, là, effectivement. Mais, tout de même, il y a un euroscepticisme chez ces partis. En revenir à une Europe des nations souveraines, c'est le cap inverse de celui qui a été suivi jusqu'à présent. C'est un choix tout à fait, qu'il est possible d'assumer politiquement. Mais il ne faut pas dire à ce moment-là qu'on veut rester dans l'Europe, on veut rester dans une autre Europe.
Quelle est aujourd'hui l'influence des élus d'extrême droite au Parlement européen ?
Il existe un consensus qui restera sans doute majoritaire entre trois familles politiques. La première, celle des conservateurs traditionnels, rassemblés au sein du Parti populaire européen. Les sociaux-démocrates, le PSE, et les libéraux du groupe Renew. Ils seront certainement encore majoritaires après le 9 juin, mais la question sera à combien de sièges sera le total des deux groupes que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire Identité et Démocratie, et les conservateurs et réformistes européens, même si ceux-ci sont un groupe extrêmement hétérogène et avec, on va dire, des degrés d'euroscepticisme qui sont assez variables. Vous savez, Madame Meloni, donc pour Fratelli d'Italia, l'actuelle présidente du Conseil italien, ne disait pas, lorsqu'elle a pris le pouvoir, « Moi, je veux changer l'Europe de l'intérieur », il disait simplement « Je veux agir au sein de l'Europe pour que l'intérêt national italien prime toujours ». Ce qui n'est pas tout à fait la même formulation. Ça veut dire « Je reste dans les mécanismes », vous me direz, étant chef de gouvernement, elle peut difficilement faire autrement, mais j'essaye à chaque fois de faire prévaloir ce que j'estime être le meilleur pour moi, ce qui veut dire que si jamais j'estime que l'intérêt national est menacé, eh bien à ce moment-là, je prononce contre. Donc on va quand même de plus en plus, dans cette famille des droites radicales, vers une remise en cause de ce qui était, je crois, le postulat initial de ce qu'on a appelé les pères de l'Europe, c'est-à-dire d'une Union européenne qui évolue à son rythme, mais qui évolue vers une forme de fédéralisme auquel, encore une fois, on peut, au nom de la souveraineté nationale, s'opposer. Mais alors, à ce moment-là, il faut le dire clairement.
Alors, vous avez parlé d'hétérogénéité au sein des conservateurs et réformistes européens. Est-ce que ça vaut aussi pour les valeurs qu'ils véhiculent, ces différents partis qui composent ce groupe ?
Il y a sans doute des divergences, des différences, disons, dans, d'une part, le fait d'appeler plus ou moins aux racines chrétiennes de l'Europe. Il y a des différences dans le degré de libéralisme économique. Il y a des différences stratégiques, participer aux coalitions gouvernementales ou pas. Certains des partis qui ont participé d'ailleurs à une coalition gouvernementale, je pense en particulier à la nouvelle alliance flamande de Monsieur de Wever, le payent apparemment assez cher. Puisque aujourd'hui, la NVA flamande est devancée par le Vlaams Belang, parti plus nationaliste, plus identitaire encore, qui siège, lui, dans le groupe du Rassemblement National. Mais somme toute, c'est quand même toujours le même débat qui ressort, c'est-à-dire l'État-nation, rien que l'État-nation, avec sa souveraineté, le thème de la perte de souveraineté, de cette multiplication des normes européennes qui prolifèrent et qui entravent la liberté d'entreprendre et les libertés individuelles des citoyens, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. Reprendre le contrôle, c'est un petit peu ça que disent à la fois les partis qui siègent dans le groupe Identité Démocratie et les conservateurs et réformistes.
Antoine Maret.
Est-ce que la Russie est une ligne de fracture entre ces différents partis ?
Certains ont négocié plus ou moins habilement le tournant qui s'imposait à eux lorsque la Russie a déclenché la guerre contre l'Ukraine. Marine Le Pen l'a fait assez habilement, très rapidement. Et on voit qu'aujourd'hui revient quand même encore au Rassemblement National, chez Marine Le Pen comme chez Jordan Bardella d'ailleurs, un discours qui tranche avec celui du reste de la classe politique, qui appelle à la fois, en des termes parfaitement irréalistes, à aller à la table des négociations. Mais pour négocier quoi ? On sait exactement ce que le Kremlin veut récupérer. Et on sait ce sur quoi il n'a pas l'intention de transiger. Et puis la seconde chose, c'est que au Rassemblement National, on continue à ne pas prendre, je crois, la mesure du danger que la Russie fait peser sur sa propre population, certes, mais également sur certains pays européens. Pas seulement sur la Moldavie, qui, elle aussi, a demandé à rentrer dans l'Union européenne, mais sur les pays baltes, sur la Pologne. Sur l'Allemagne, dont, mine de rien, l'armée se prépare à un scénario d'invasion qui est dans ses cartons. Et puis aussi, éventuellement, danger pour nous, puisqu'il y a des responsables proches du pouvoir russe qui déclarent qu'ils n'excluent pas, ils y réfléchissent, disent-ils, à vitrifier Paris. Donc c'est assez curieux, cette manière de penser, que on peut, comme ça... revenir sur ce qui avait été en février 2022 un tournant assez bien négocié, mieux négocié chez Marine Le Pen que chez Éric Zemmour. Donc il y a effectivement un sujet Ukraine dans ces droites radicales. D'une part, sur le fait d'être plus conciliant vis-à-vis de la Russie, estimer qu'elle n'a pas tous les torts dans ce conflit, et d'autre part, expliquer aux citoyens européens que l'adhésion de l'Ukraine et accessoirement de la Moldavie, serait pour eux une catastrophe parce que l'Ukraine possède une production agricole importante, même si elle est évidemment entravée par le conflit, et que l'entrée massive de marchandises ukrainiennes sur le marché européen créerait, pour les agriculteurs par exemple, une baisse de revenus considérable. L'autre volet étant de dire, mais cela fera encore des étrangers venus d'Europe de l'Est qui viendront inonder le marché du travail et feront pression sur la baisse des salaires. Donc oui, il y a véritablement un sujet, mais qui n'est pas uniquement, j'allais dire, de proximité avec le Kremlin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que ces partis sont des agents d'influence. Il y a quelque chose d'autre qui est une véritable fascination pour le modèle sociétal et pour le modèle de gouvernance russe. Pour le modèle de gouvernance, parce que c'est un modèle de gouvernance extrêmement verticale, extrêmement autoritaire. Et pour le modèle sociétal, parce que on voit beaucoup dans les droites radicales la Russie comme étant une sorte de conservatoire des valeurs européennes que nous aurions volontairement abandonnées. La famille traditionnelle, le rôle de la religion associé à l'État, la façon dont M. Poutine travaille en très bonne intelligence avec l'Église orthodoxe, le patriotisme que nous aurions oublié et que les Russes cultiveraient, le sens de l'intérêt national que nous aurions perdu et qu'ils conservent. Bref, il y a une fascination qui, en France en tout cas, remonte assez loin.
Mais cette fascination, on ne la retrouve pas, par exemple, au PiS polonais, qui est anti-russe au nom d'un nationalisme.
Oui, mais vous savez, le cas des Baltes, même lorsqu'ils sont conservateurs, le cas des Polonais est assez particulier, parce que voilà des pays qui, d'abord, et on ne le rappelle jamais assez, ont une indépendance récente, elle a tout juste un siècle, et qui ensuite ont été des pays martyrs, des pays qui ont souffert sous le joug de l'Empire russe, puisque les populations baltes et polonaises étaient réprimées dans leurs droits les plus fondamentaux, y compris celui de l'usage de la langue et de l'enseignement de la langue. Et bref, ces pays qui ont été occupés, annexés, dépecés par d'ailleurs les Russes, puis par les Soviétiques et en même temps par les nazis, conservent une longue mémoire de leur histoire qui fait d'eux, même lorsqu'ils ne sont pas, vous parlez des militants du PiS, mais c'est vrai aussi chez tous les Polonais, je crois, y compris ceux qui se situent dans l'opposition libérale, ils sont évidemment très très sensibles de manière épidermique à une menace qui en plus est située à leur porte immédiate. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à Tallinn, vous êtes à 200 km de Saint-Pétersbourg et vous êtes à beaucoup moins de la frontière russe. Donc naturellement, tous les jours et dans leur quotidien, cette réalité s'impose à eux beaucoup plus qu'à nous.
Alors parmi les réalités qui s'imposent, il y a ce thème qui fait recette au sein de tous ces partis, celui de l'islamisation du continent. Pourquoi est-ce qu'il suscite une telle adhésion? Parce que là, la menace islamiste n'est pas présente comme la menace russe.
La menace islamiste, si l'on parle des attentats terroristes et de la pression qu'exerce l'islam politique sur les sociétés, est une réalité. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte.
En nombre d'actes, en nombre de morts, on n'est pas du tout.
Écoutez, en nombre de morts, nous avons tout de même payé très cher l'action du terrorisme islamiste, que ce soit par les attentats du Bataclan et de la promenade des Anglais, par l'attentat contre Charlie Hebdo, par la décapitation de Samuel Paty et par le sort réservé à Dominique Bernard. On ne peut quand même pas dire que ce soit un sujet accessoire.
Mais dans le quotidien des gens, c'est plus l'immigration qui est considérée comme...
Ça fait partie d'un ensemble. Ça fait partie d'un ensemble, mais on ne peut pas dire que la pression que l'islam politique cherche à faire peser sur un certain nombre de nos libertés n'existe pas ou qu'elle n'est pas perçue. Elle est effectivement perçue. La question migratoire, c'est... autre chose, c'est dans un pays, par exemple, comme la Suède ou comme le Portugal, qui était relativement monolithique il y a encore quelques décennies sur le plan linguistique et sur le plan culturel, le choc que constitue l'arrivée de gens qui ne sont pas de culture européenne. Et tout ça dans un contexte assez particulier, puisque finalement, ces gens ont peur de l'immigration, mais comme vous venez de le dire, ils ont peur de l'islam, et pas seulement de l'islam radical, ils ont peur de l'islam en général. Mais l'une des raisons pour lesquelles ils en ont peur, et de plus en plus peur, est peut-être liée à leur propre détachement de la religion. C'est-à-dire que finalement, la peur de l'islam, c'est un petit peu, la croyance de l'époque de la sortie de la religion. Quand les églises sont vides, quand les temples protestants se vident aussi, notamment en Scandinavie, où l'adhésion religieuse devient de plus en plus faible, eh bien vous avez peut-être naturellement moins de points d'appui, moins de colonnes vertébrales, donc davantage peur de celui qui, lui, pour le coup, continue à affirmer sa foi.
Merci Jean-Yves Camus. Voyage en Europe nationaliste, ce grand reportage a été signé Julie Pietri, Frédéric Seyss et Antoine Maret. Réalisation Annie Bro avec Florent Bujon à la technique et au web Caroline Beneteau. Merci à la documentation de Radio France. Et pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.